Monsieur de Vigry va bientôt publier aux éditions Robert Laffont une histoire et dictionnaire de la France des Lumières. Il a également écrit deux volumes. Un s'intitule Christianisme et Révolution, cinq leçons d'histoire de la Révolution française, et l'autre s'intitule Le catholicisme des Français dans l'ancienne France. Pendant 13 ans, il a été le directeur des rencontres internationales d'histoire religieuse. Il a été doyen de la faculté des lettres d'Angers. Il a enseigné à l'Institut Saint-Pédis et il est présentement professeur à l'Université de Lille. Il nous parlera ce soir du phénomène de la déchristianisation qui s'est opérée en Occident depuis les deux ou trois derniers siècles. Je lui cède immédiatement la parole.
Monsieur l'abbé, mesdames, messieurs, mes chers amis, d'abord je veux remercier le Cercle des étudiants catholiques traditionalistes de son invitation. Je suis très heureux de parler ici, dans ce cadre, et j'ai été très heureux de venir au Canada pour un grand nombre de raisons, et en particulier pour retrouver les origines de la Nouvelle-France, auxquelles je m'intéresse depuis longtemps. Alors, le titre de cette conférence vous a été donné, Considération, je le reprends un peu, je le reformule, considération sur la déchristianisation contemporaine. Alors, déchristianisation, c'est un mot récent. Ce n'est pas un vieux mot français. C'est un mot récent. L'historien Michelet, de la Révolution française, qui vivait au XIXe siècle, en serait l'inventeur, aurait inventé ce mot. Pourtant, certains prétendent avoir trouvé le mot employé dès le début du XIXe siècle. Quoi qu'il en soit, c'est un mot qui convient très bien, c'est un mot convenable. Il dit bien ce qu'il veut dire, que les âmes se détachent de Jésus-Christ. Alors, je vous parlerai de la déchristianisation, surtout de la France, parce que c'est elle que je connais le mieux, et je ferai cependant quelques comparaisons, bien sûr, au cours de mon exposé. Le détachement progressif de la France, de la religion du Christ, a commencé il y a 3 siècles, vers 1680, dans les dernières années du règne de Louis XIV, ces dernières années qui correspondent à ce que les historiens ont appelé la crise de la conscience européenne. Nous observons en effet, à la fin du XVIIe siècle, plusieurs signes de cette déchristianisation qui est en train de commencer. La contestation des valeurs traditionnelles, les attaques contre la religion, les abstentions déjà nombreuses du devoir pascal. Vous savez ce qu'est le devoir pascal. Depuis le Concile de Latran de 1215, tous les chrétiens doivent faire leur Pâque, c'est-à-dire se confesser et communier au moins une fois l'an. Or, au XVIIe siècle, dans toutes les paroisses, d'ailleurs ici en Nouvelle-France également, les curés tenaient un compte précis des pascalisants, de ceux qui faisaient leur Pâques, et surtout de ceux qui ne les faisaient pas, à l'occasion, les signaler à l'évêque du diocèse. Or, en 1683, il y a donc 3 siècles et 12 ans, Bossuet, le grand orateur sacré, Bossuet, évêque d'un petit diocèse de l'Île-de-France, l'évêque de Meaux, faisait sa tournée pastorale. Il visitait ses paroisses. Et il constata lors de cette tournée qu'un grand nombre, je cite les paroles mêmes de Bossuet, il constata qu'un grand nombre de pécheurs endurcis ne font pas leur Pâques. Et il ajoute, nous demandons à tous nos curés et vicaires de nous en faire part. Ce fait n'est pas constaté uniquement dans le diocèse de Meaux, mais dans beaucoup d'autres diocèses. Il y a donc déjà, voyez-vous, une non-pratique, un début de non-pratique religieuse déjà sous le règne de Louis XIV. Et d'ailleurs, la Nouvelle-France n'est pas épargnée par ce début de la déchristianisation. Il me semble, je ne suis pas du tout spécialiste de cette histoire de la Nouvelle-France, je la connais bien mal, mais j'ai quand même lu un certain nombre d'ouvrages, et il me semble que la vocation missionnaire perd de sa vitalité, perd de sa force au Canada français dans ces dernières années du XVIIe siècle. Et j'observe que dans la décennie 1660-1670 commence la traite de l'eau-de-vie, le commerce de l'eau-de-vie avec les sauvages. Et c'est une chose très importante, très grave. Et Marie de l'Incarnation, d'ailleurs, s'en inquiète beaucoup. Elle le dit dans sa correspondance avec ses correspondants français. Elle voit dans le tremblement de terre de 1663 une manifestation de la colère de Dieu contre ce commerce qu'elle qualifie d'indigne et de démoralisant. Cette crise de la déchristianisation au XVIIe siècle est surprenante, est étonnante, parce qu'elle vient à la fin d'un siècle qui a été l'un des plus grands siècles de l'histoire de la religion catholique. Un de ces siècles où, comme l'a dit un historien, le ciel a rencontré la terre. Comme en témoigne d'ailleurs, entre autres faits, le vœu du roi Louis XIII qui consacre la France à la Vierge en 1637 et la fondation de Ville-Marie, la fondation de Montréal en 1642. Ce sont deux faits tout à fait significatifs de la foi qui régnait alors en France. Et puis tout d'un coup, à partir de 1650-1660, il y a comme un affaiblissement très grave, très, très fort de la foi chrétienne. Alors mon histoire de la déchristianisation devrait donc partir à la fin du XVIIe siècle, de la fin du XVIIe siècle, et descendre ensuite de siècle en siècle jusqu'à nos jours, jusqu'à l'époque contemporaine. Mais comment faire tenir tout cela dans une conférence et comment ne pas vous ennuyer avec une chronologie, avec une histoire qui se déroulerait ainsi période par période. Je crois préférable de me cantonner dans les dernières années de l'histoire de la déchristianisation, c'est-à-dire les années 1975-1995, quitte à remonter à l'occasion dans le passé afin d'éclairer les origines de ce phénomène. Alors je voudrais surtout vous montrer la rapidité de cette évolution depuis 20 ans et son caractère imprévu et d'une certaine manière d'ailleurs aussi imprévisible. Et je voudrais démontrer qu'une recherche et un examen attentif des causes sont indispensables pour une parfaite compréhension du phénomène et pour une bonne compréhension de sa gravité. Où en était d'abord la déchristianisation de l'Occident et principalement de la France il y a 20 ans ? Il y a 20 ans, où en était-on il y a 10 ans et où en est-on aujourd'hui ? Voilà mes trois questions. Alors pourquoi ces trois dates ? Pourquoi 1975, 1985, 1995 ? Bien, je dirais tout simplement pour des raisons très personnelles. Parce qu'il y a 20 ans, j'avais écrit un article qui a été d'ailleurs publié deux ans plus tard, en 1977, dans la revue L'Ordre français, article qui était intitulé « La déchristianisation dans le monde moderne ». Il y a 10 ans, en 1985, j'avais organisé à l'abbaye de Fontevraud, dans l'ouest de la France, un colloque d'histoire religieuse sur ce sujet, christianisation et déchristianisation. Et nous avions fait le point de la déchristianisation à cette date, en 1985. Et aujourd'hui, eh bien, je refais le point à votre intention. Ces trois observations successives, faites par le même observateur, moi-même, à 10 ans d'intervalle, seront, je l'espère, utiles aux historiens, et s'il plaît à Dieu, peut-être, en ferai-je une quatrième dans 10 ans, je n'en sais rien, enfin, ce n'est pas mon sujet. Alors, je commence par 1975. Certains d'entre vous n'étaient pas nés, 1975, et transportons-nous donc 20 ans en arrière. Alors, à cette date de 1975, la pratique religieuse et le recrutement des prêtres venaient de s'effondrer. La pratique était passée de 25%, alors la pratique, on entend pour pratique, en 1975, l'assistance régulière à la messe du dimanche. Donc la pratique était passée de 25% en France en 1961 à 14% en 1975. Et le nombre des ordinations annuelles était passé de 600 en 1960 à une centaine. Ces chiffres catastrophiques n'étaient nullement secrets. Tout le monde pouvait les connaître parce qu'à cette époque, les évêques de France organisaient des enquêtes sur la pratique religieuse. Ils faisaient des enquêtes, ils chargeaient des sociologues, des spécialistes des sondages d'enquêter sur la pratique religieuse. Et les semaines religieuses, je ne sais pas si on donne ce nom au Canada, au bulletin diocésain, au bulletin de l'évêque, les semaines religieuses de tous les diocèses dans ces années 75 étalaient des statistiques, des chiffres, des comptages. Rien n'intéressait plus, semblait-il, les évêques de France que ce compte, que ce comptage. On était alors, en effet, à la grande époque de la sociologie religieuse et de l'histoire religieuse sociologique. On comptait, on quantifiait, on mesurait. On mesurait les comportements religieux, comme on disait alors. On parlait de pascalisant, de messalisant, de non-pascalisant, de non-messalisant. On parlait de chrétiens festifs, ceux qui ne venaient à la messe que pour les fêtes, et de chrétiens saisonniers qui ne venaient à la messe qu'à certaines périodes de l'année. On inventait ces catégories nouvelles, on traçait des courbes, on faisait des courbes de pratique, des courbes de fréquentation des sacrements, des courbes d'ordination. Et comme on ne fait des courbes que dans les temps de crise, les courbes descendaient. Et c'était aussi l'époque où les recherches plus poussées des historiens mettaient en évidence les phases successives de cette grande récession du christianisme qui avait commencé dans les années 1680. Donc en 1975, on savait déjà à peu près quelles avaient été les phases de ce reflux, de cette grande récession depuis le XVIIe siècle. Alors si vous voulez, je fais repasser rapidement devant vos yeux ces phases successives. Première phase, c'est la fin du XVIIe, telle qu'on les voyait en 1975. Première phase, c'était la fin du XVIIe siècle et le XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution française. C'était le siècle des Lumières antichrétiennes, dont la diffusion était efficace, puisque dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la plus grande partie de la noblesse française, de la grande noblesse française, et de ce que j'appelle la société d'argent, c'est-à-dire les grands négociants, les banquiers, tous ces gens-là vivaient, à la fin de l'ancien régime français, dans la plus totale indifférence de la religion. C'est même étonnant de penser cela. Cette même grande noblesse française, qui a été le soutien de la réforme catholique au XVIIe siècle, pensons... Vous connaissez peut-être la duchesse d'Aiguillon, qui était la nièce de Richelieu et qui a été si bienfaisante pour la Nouvelle-France, pour Madame de la Peltrie, qui a beaucoup aidé Marie de l'Incarnation aussi. Ces grandes dames, ces grands seigneurs généreux, bienveillants et des âmes ardentes, vous ne les retrouvez plus au XVIIIe siècle. À partir de 1750, qu'est-ce que vous voyez? Des libertins, des gens, des débauchés, des gens qui n'ont plus aucune préoccupation religieuse, non seulement les hommes, mais aussi les femmes. Et il y a une histoire que je cite quelquefois, c'est l'histoire de la marquise de la Tour du Pin. La marquise de la Tour du Pin était née en 1764. Elle était née Dillon, Marie-Thérèse de Dillon. Et elle avait 20 ans au moment de l'avènement du roi Louis XVI. Elle avait épousé en 1775 le marquis de la Tour du Pin, qui deviendra ministre de la guerre de Louis XVI dans le gouvernement de la monarchie constitutionnelle en 1791. C'est la grande noblesse de cour. Cette jeune femme est la dame d'honneur de Marie-Antoinette. La révolution et la terreur surviennent. La famille de la Tour du Pin émigre. Et elle émigre aux États-Unis. Elle émigre avec ses enfants. Cette jeune femme a 3 enfants. Et sa petite fille, qui a 12 ans, meurt subitement en 1795, alors que la famille est en exil aux États-Unis. Alors la jeune femme raconte dans ses mémoires, la marquise de la Tour du Pin raconte dans ses mémoires qu'elle est allée souvent pleurer sur la tombe de sa fille. Et que là, elle a retrouvé la religion. Et elle dit, je n'ai pas retrouvé la religion, parce que dans mon enfance, on ne m'en avait jamais parlé. Voilà donc une jeune femme de la plus grande noblesse française, d'une famille catholique, son oncle était cardinal, archevêque, qui n'avait jamais entendu parler de la religion dans son enfance. Vous mesurez là, si vous voulez, l'état de déchristianisation profonde de la grande noblesse française à la fin de l'Ancien Régime. Mais il y avait aussi une partie du peuple, une partie notable des classes populaires qui était déjà touchée au XVIIIe siècle par ce phénomène. Et on note dans plusieurs villes, dans les grandes villes, à Paris, à Bordeaux, à Nantes, et même dans certaines campagnes, des proportions inquiétantes, importantes, pouvant aller jusqu'à 25% d'abstention du devoir pascal avant la Révolution française. Alors deuxième phase, c'est la Révolution. Je continue le film. Maintenant, c'est la Révolution qui passe. La période révolutionnaire, 1789-1799. 10 années décisives. Celles qui ont le plus compté dans toute l'histoire de la déchristianisation, dans toute l'histoire de ces 3 siècles, tout au moins pour la France. En 1789, presque tous les Français catholiques, à quelques exceptions près, allait à la messe le dimanche et observait le devoir pascal. En 1802, lors de la réouverture des églises, 50% des Français seulement. Donc en 10 ans, le nombre des pratiquants a diminué de moitié. Comment expliquer cette chute brutale de la pratique religieuse pendant la Révolution ? La persécution, je ne pense pas que ce soit la raison principale. Au contraire, très souvent, la persécution a un effet stimulant et elle est une, comme dit l'expression célèbre, elle est une semence, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Non, je pense qu'il faut voir les raisons ailleurs. Dans la politique anti-religieuse, dans la politique anti-chrétienne, dans la déchristianisation systématique opérée par le gouvernement révolutionnaire. D'abord, la fermeture des églises. Sachez une chose, c'est que toutes les églises de France ont été fermées pendant cette période, pendant un temps plus ou moins long, certaines pendant 3 ou 4 ans, certaines seulement pendant quelques mois, mais toutes les églises. Et je dis toujours, quand je parle de cette question, je dis, si vous connaissez une église de France qui est restée ouverte pendant toute la période révolutionnaire, veuillez me le dire. Donc la fermeture des églises, donc pas de messe, pas de messe, pas d'assemblée le dimanche, rien. La raréfaction des prêtres. La moitié des prêtres partent en exil en 1791 et 1792. La moitié du clergé français quitte la France et s'en va en exil. La totalité des évêques, sauf 4. Les évêques ont été courageux. Les évêques français ont été courageux au moment de la constitution civile du clergé. Vous savez, c'est cette nouvelle organisation de l'Église que voulait imposer le gouvernement révolutionnaire et qui était schismatique. Et les évêques de France l'ont refusé. Mais à mon sens, je ne veux pas porter un jugement trop sévère, mais je pense qu'ils ont été moins courageux quand ils sont partis, quand ils ont quitté leur diocèse, ils ont abandonné leur diocésain. Donc, raréfaction des prêtres, raréfaction du clergé. Et puis alors, il ne restait donc qu'une moitié du clergé. Et la moitié de cette moitié a été gagnée par le schisme constitutionnel. Beaucoup de ces prêtres constitutionnels ont défroqué, se sont mariés. Et finalement, il n'est resté que quelques centaines de prêtres clandestins qui vivaient dans la clandestinité, de sorte que beaucoup de gens ne pouvaient plus recevoir les sacrements. Peut-être les 2/3 des Français ont eu les grandes difficultés pour recevoir les sacrements pendant plusieurs années. Et quant au mariage, on attendait 2 ans, 3 ans que le prêtre clandestin passe pour vous marier. Et d'ailleurs, les évêques de leur exil avaient dit qu'on pouvait vivre en état de mariage et simplement recevoir la bénédiction quand le prêtre passerait. Et enfin, le remplacement du dimanche par le décadie. La Révolution a eu cette idée de changer le calendrier. Et vous savez que le calendrier grégorien, dans le calendrier grégorien, chaque jour est un jour sacré, chaque jour est un jour de fête. On l'a remplacé, ce calendrier, par un nouveau calendrier qui honorait les divinités de la nature, qui honorait les choses de la nature et non plus les saints. Et on a remplacé le dimanche par le décadie. Le travail du dimanche a commencé sous la Révolution. On a commencé à travailler le dimanche parce qu'on y était en quelque sorte obligé. Le jour de repos, c'était le décadie. Et c'est très important pour la déchristianisation. Alors maintenant, troisième phase, mais je passe très vite, c'est le 19e siècle. 19e siècle jusqu'en 1914, jusqu'à la Grande Guerre de 1914. Il y a exactement 3 19e siècles. Il y a le premier, où la chute de la pratique continue, sous la Restauration, la monarchie de Juillet, jusqu'en 1835. Puis le deuxième, où la pratique remonte, 1835-1880, le Second Empire est une période de re-christianisation de la France, et il y a le troisième 19e siècle, à partir des lois antichrétiennes de 1880-1905, loi de laïcisation de l'enseignement, loi anticongréganiste et loi de séparation de l'Église et de l'État. De si bien qu'en 1914, la situation est la même qu'au lendemain de la Révolution. Au lendemain de la Révolution, la moitié des Français faisaient leur Pâques. Et en 1914, malgré les efforts du clergé, malgré les efforts des nombreux saints, comme le curé d'Ars, qui ont été immenses, qui ont été très nombreux, bien la situation de la pratique n'est pas meilleure qu'au lendemain de la Révolution. Cependant, on compte encore plus de 1000 ordinations par an. Le XXe siècle, de 1914 à 1960, représente la phase la plus inquiétante depuis la Révolution. On assiste en effet à une nouvelle grande chute de la pratique du devoir pascal, en particulier 50% au lendemain de la Première Guerre mondiale. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1918, 1 Français sur 2 faisait ses Pâques. Et en 1961, 1 Français sur 4. 1961, 25%. Alors cette période est une période d'inquiétude déjà. Inquiétude chez les évêques, inquiétude chez les prêtres. Et en 1943, deux jeunes prêtres qui travaillaient dans des banlieues ouvrières, qui étaient vicaires dans des banlieues ouvrières, les abbés Godin et Daniel, ont publié un livre qui est resté célèbre, qui a eu un grand succès à son époque, et qui s'appelait « La France, pays de mission ». Point d'interrogation. C'était un cri d'alarme contre ce que les auteurs de ce livre appelaient la montée du paganisme dans les milieux populaires. Toutefois, c'est intéressant, le phénomène progressait inégalement selon les régions dans ces années-là. Il y avait des régions françaises qui restaient fidèles à la pratique, fidèles à la religion, et d'autres au contraire qui se déchristianisaient très rapidement, qui étaient devenus des pays de mission, des déserts. En 1952, on publie une carte de la pratique religieuse. Le sociologue très connu, le grand sociologue français Gabriel de Braz, publie cette carte qui fait apparaître de très fortes différences. Et j'ai des souvenirs très précis parce que j'étais enfant alors. Et ma famille appartenait à deux régions différentes. Mon père était du midi de la France et ma mère était de l'ouest de la Vendée. De sorte qu'une partie de l'année, j'allais à la messe dans un petit village près de Toulouse. Et une autre partie de l'année, pendant les vacances, j'allais à la messe en Vendée, dans un village de Vendée. Alors en Vendée, eh bien c'était simple. À cette date de 1952, tous les hommes allaient à la messe. Je ne parle pas des femmes. Les femmes y étaient toujours allées, elles continuaient d'y aller. Mais tous les hommes y allaient. Je ne parle pas des enfants non plus. Toute la population. Il y avait bien un ou deux anticléricaux, un ou deux rouges, comme on disait. Mais ils ne se montraient pas trop, hein. ils étaient bien connus, ils n'étaient pas nombreux. Et puis par contre, dans le village de la région toulousaine, le village méridional où j'allais à la messe pendant le cours de l'année, eh bien là, il y avait que les femmes à la messe. Les femmes, quelques enfants, et trois ou quatre hommes, et les deux chantres, qui étaient aussi des hommes, les deux chantres, voilà. Trois ou quatre hommes qui venaient, qui se plaçaient toujours au fond de l'église. Toujours sur un banc, et le plus au fond possible. S'ils avaient pu rentrer dans le mur du fond, ils y seraient rentrés. Hein. Alors ils étaient là, ils parlaient un petit peu entre eux. Et puis les deux chantres, qui avaient des voix magnifiques, qui chantaient très bien la messe des anges, qui chantaient très bien la messe de Dumont, qui avaient des voix magnifiques comme on en a souvent dans le milieu de la France, mais qui sortaient de l'église pendant que le curé faisait son sermon. Ils sortaient, ils allaient lire le journal ou ils allaient au café. Et puis quand ils voyaient que le serment allait se terminer, ils rentraient et ils entonnaient le credo. Et je me rappelle encore le chantre, entonnant le credo depuis la porte. Il rentrait du café, il entonnait le credo. Il allait jusqu'à l'harmonium en chantant le début du credo. Mais enfin, ces hommes-là, ils étaient là et ils chantaient. À cette époque, on peut le dire, le christianisme faisait encore partie du paysage moral, du paysage intellectuel, du paysage mental de la France. Et tout le monde, même les incroyants, même les anticléricaux, étaient rattachés au christianisme d'une manière ou d'une autre, ne fût-ce que par l'anticléricalisme, manger du curé, bouffer du curé, comme on disait aussi, n'est-ce pas? Eh bien, c'était encore se rattacher à la religion, si je puis dire, par un lien alimentaire. Mais voici la dernière phase de ce film, c'est celle du reflux total. Il s'agit de cette courte période d'une quinzaine d'années à peu près qui va du temps du Concile Vatican II, commencé en 1962 et clôturé, comme vous le savez, en 1965. Jusqu'à cette date de 1975 où je faisais mon premier point. Période de reflux total, ai-je dit. On constatait en effet, pendant ces 15 années, la baisse de la pratique la plus rapide depuis la Révolution. 25% en 1961 et 14% 10 ans après, en 1975. La France est l'un des pays catholiques où la pratique est la moins élevée en 1975. Les taux de l'Espagne et de l'Italie sont nettement plus forts, autour de 30 et 40% selon les diocèses. Le taux du Québec en 1971, je parle du diocèse de Montréal, si mes renseignements sont exacts, est de 31%, mais malheureusement, les auteurs qui m'ont fourni ce renseignement ne donnent pas beaucoup de références. Il est vrai que l'effondrement chez vous a été extrêmement rapide, puisque la pratique a diminué de moitié entre 1960 et 1971. Mais c'était surtout pour la France, dans cette année, dans ces années 75, la baisse des ordinations sacerdotales qui frappait sur tous les esprits. Encore 600 par an avant 1962, et en 1975, à peine une centaine. Je m'en souviens très bien. Les dernières ordinations, nombreuses, ont été les ordinations des années 66, 67, juste après le Concile. Juste après. Parce que les séminaires étaient encore pleins. Et puis, c'est en 1967-68, dans la plupart des diocèses, que nous avons commencé à sentir le froid et à voir le désert. C'est à ce moment-là que les prêtres français, la plupart ordonnés pendant la guerre, ou juste après la guerre, ont commencé à vieillir dans la solitude, et pour un certain nombre d'entre eux, dans la tristesse, dans l'amertume. Car les beaux lendemains qu'on leur avait promis ne se manifestaient pas. On leur avait dit à ces prêtres, le concile va régénérer l'Église, mais que voyaient-ils ? Que voyaient-ils non seulement la baisse de la pratique, mais encore le refroidissement de la ferveur, de la piété chez les fidèles qui restaient ? Oui, ce mot de fidèle qui est employé, qui était si souvent employé dans l'ancienne Église traditionnel, ce mot n'avait plus guère de sens déjà, ce mot de fidèle, car ces fidèles-là ne se dérangeaient plus pour la messe en semaine, beaucoup ne demandaient plus de messe, la demande de messe, je ne parle pas des fondations de messe, et la dernière fondation de messe dont j'ai eu connaissance doit dater des années quand j'étais vraiment enfant, juste après la guerre, après je n'en ai plus jamais entendu parler. Mais on continuait à demander des messes, mais cette demande de messe se raréfie singulièrement dans les années 70-75. Un certain nombre, enfin, 17% des chrétiens catholiques, d'après un sondage d'août 1976, ne se confessaient plus jamais dès 1976. C'était déjà un peu la religion à la carte. On prenait ce qui vous intéressait, tout au moins pour la pratique. Il faut dire que les prêtres eux-mêmes, sauf une petite minorité, se montraient infidèles aux observances de leur état, ne disant plus régulièrement la messe quotidienne et beaucoup délaissant le bréviaire. Et je ne parle pas des 2400 prêtres mariés, chiffre officiel fourni par l'épiscopat entre 1965 et 1975. Telles étaient donc nos constatations et nos informations de 1975. Voilà ce que nous apprenait, voilà ce que nous révélait de la déchristianisation ancienne et présente de la France, l'histoire religieuse, la sociologie, les sondages et nos propres observations. Mais alors, qu'en pensait-on ? Qu'en pensait-on ? Eh bien, tout le monde s'accordait à parler de crise. On disait, c'est une crise. Certains plus savants, plus intelligents, parlaient de mutation, grande mutation des comportements religieux. Mais sur les causes et sur la signification de cette crise, les réponses données étaient assez différentes et certaines, je dois dire, surprenaient par leur étrangeté, par leur bizarrerie. Lorsqu'une armée fait la guerre, et qu'elle perd un grand nombre de soldats, ce n'est pas forcément, vous en conviendrez, les plus courageux qui restent debout. Et pourtant, c'est ce que nous disaient, mutatis mutandis, certains sociologues et certains historiens, de ces 14% de fidèles qui avaient résisté à la déroute. Ils étaient encore là. Donc c'était les meilleurs. Pourquoi vous désoler ? Nous demandaient les spécialistes. Ce sont les bons qui restent. Les autres, ceux qui sont partis, ceux qui ne viennent plus, ne venaient à l'église que par conformisme. L'église a secoué le vêtement et la poussière est tombée. Telle était l'interprétation qui nous était fournie le plus communément par les évêques, par les prêtres engagés, par les laïcs responsables de la pastorale. Il y avait cependant d'autres spécialistes. D'autres spécialistes qui nous administraient une consolation un peu différente. Ces spécialistes-là nous disaient que la pratique, après tout, ne signifie rien. Pourquoi, nous disait-il, pourquoi vous lamentez de cette baisse de la pratique, puisque la pratique n'a pas de signification religieuse, c'est un comportement. C'est un comportement, donc ça n'a pas de signification. La pratique religieuse, avait écrit en 1964 l'éminent spécialiste Gabriel Lebras, n'est qu'un des signes de l'adhésion religieuse la plus visible, mais aussi le plus superficiel. C'est un signe d'adhésion religieuse, mais c'est un signe superficiel. Fin de citation. Alors, nous disaient ces spécialistes éminents, pourquoi parlez-vous de déchristianisation ? C'est un mot qui ne convient pas. C'est un mot fallacieux, disait Gabriel Lebras, ce spécialiste éminent. Et d'ailleurs, le monde ecclésiastique s'interdisait d'employer ce mot. C'était un mot qui n'était pas employé par les évêques et les curés dans ces années-là. Et dans les sphères académiques et universitaires, chez les historiens en particulier, il était très mal vu de l'employer, d'en faire usage. Je l'employais, mais je n'étais pas très bien vu pour cela. Et en parcourant d'ailleurs la littérature sur le Québec contemporain, j'ai noté chez vos auteurs, historiens et sociologues, un semblable refus du mot « déchristianisation ». Ils parlent toujours, de décléricalisation, de, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, de sécularisation, mais j'ai l'impression que déchristianisation est pratiquement bannie. Pourtant, quelques spécialistes, dans ces années 75, admettaient, miracle, le mot déchristianisation, et même le fait. Ils reconnaissaient qu'il y avait une déchristianisation, ils n'étaient pas nombreux, mais il y en avait. Seulement, il n'expliquait pas, ou il l'expliquait de façon insuffisante. Il ne voulait y voir que des causes économiques et sociales. La révolution industrielle, l'avènement du chemin de fer, le dépeuplement des campagnes, l'accroissement des grandes villes. Bon, enfin tout ça, les usines. Voilà leur explication généralement. Et il ne voulait pas entendre parler d'autres causes. Surtout pas. Surtout, il ne voulait pas entendre parler de la persécution exercée par la Révolution française. Ça, c'est une explication dont on ne voulait pas entendre parler, ni bien sûr des mesures anticléricales et pro-laïques de la Troisième République. Il n'était jamais question non plus, dans leurs propos, d'un quelconque effet possible de l'adjournamento. À les entendre, tout s'était passé en quelque sorte dans la trame sociale, tout s'était passé sociologiquement, c'était une transformation sociologique, une mutation, voilà. Pourtant, il paraissait déjà bien difficile de ne pas mettre en cause la révolution d'inspiration moderniste entreprise dans l'Église à l'occasion du Concile Vatican II et la mise en place par les entrepreneurs de cette révolution d'un système de persécution et de destruction. Comment aurait-on ne pas voir la fermeture des séminaires ? Fermeture des séminaires qui commence dans les années... Oui, 71, 72. Un des faits qui a le plus frappé dans la région où j'habitais, c'était la fermeture du séminaire de Rodez dans l'Aveyron. Le séminaire qui avait fourni au XIXe siècle des centaines, je dirais même des milliers de prêtres. C'était ce qu'on appelait la Vendée du Midi, l'Aveyron. La fermeture du séminaire de Rodez a fait beaucoup parler. Il a été fermé en 1976, ce séminaire de Rodez. Oui, la fermeture du séminaire, la mise à l'écart des curés âgés. Les curés âgés qui ne suivaient pas le mouvement, donc mis à l'écart. La mise au pas des jeunes prêtres, à qui on imposait ceci et cela, ceux qui venaient de sortir du séminaire. C'était le moment où on changeait l'habit ecclésiastique. Et beaucoup de jeunes prêtres se virent placer par leur évêque devant cette obligation de changer de costume. Les prêtres âgés, on n'osait pas trop les obliger, mais les jeunes prêtres ont été forcés dès le début. On les a contraints. Il faut être indulgent pour eux. Les vieux qui y ont renié, c'est plus grave. Mais les jeunes qui sortaient du séminaire et que l'évêque convoquait en disant « Maintenant c'est fini, la soutane », ben vous savez, on peut comprendre dans une certaine mesure leur attitude. La destitution des supérieurs, rebelle à la réforme liturgique et à la mitigation des règles et constitutions de leurs ordres. Alors là, c'est l'histoire de la persécution qu'il faudrait raconter. Un jour, on l'écrira. L'histoire de la persécution des prêtres, des religieuses, des supérieurs, destitués. Je me souviens d'un cas qui était très proche pour moi, d'une moniale bénédictine, jetée hors de son monastère en 24 heures par l'évêque du diocèse pour crime de fidélité à la règle et renvoyée dans sa famille sans un sou pour vivre, alors qu'elle était là depuis 20 ans dans ce monastère. La mesure de suspense prise le 29 juillet 1976 contre Mgr Lefebvre fut comme le couronnement de la persécution. Alors tout cela, évidemment, scandalisait de nombreux fidèles. Certains même cessèrent alors toute pratique religieuse, étant scandalisés par ces réformes, par ces changements. Et c'était une sorte de conséquence normale du rejet par ces fidèles de la nouvelle liturgie et surtout du nouveau discours clérical. Oui, de ces abandons-là, on ne parle jamais. Et il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, ces hommes-là maintenant et ces femmes ont 60 ans, 70 ans. Ils ont cessé de pratiquer à ce moment-là. Et les jeunes parents que nous étions alors assistaient, constataient désolés la désagrégation qui commençait du catéchisme, remplacé par une catéchèse informe, et l'affaiblissement de la vie chrétienne dans les écoles, où l'on transformait les chapelles en laboratoires ou en salles de sport, et où les exercices religieux se réduisaient à trois ou quatre vagues célébrations par an. Enfin, les prêtres eux-mêmes se voyaient soumis impérativement aux directives d'une pastorale, c'est le mot qu'on employait, on emploie moins aujourd'hui, j'ai l'impression, pastorale dite d'ensemble, je ne sais pas si vous avez connu cette expression, pastorale d'ensemble, stratégie nouvelle et sûre d'elle-même, mais assez difficile à comprendre, puisqu'il s'agissait d'aller au monde, selon l'expression, aller au monde, et de témoigner, expression employée aussi très souvent, mais sans pour autant convertir, le mot conversion étant banni. Évangélisation sans conversion, en somme, c'était absurde, mais les inventeurs de la méthode n'en démontraient pas moins l'excellence et, comment dirais-je, l'intelligence. Aux malheureux prêtres qui étaient invités par les évêques à venir se recycler dans des stages où on leur expliquait les merveilles de cette stratégie. Les anciennes méthodes, prêchaient-ils, sont périmées. C'était le temps où le chanoine Boulard, autre grand homme de la sociologie religieuse, et qui, je crois, même est venu dans ce pays, le chanoine Boulard, il était demandé partout, c'était un spécialiste. Le chanoine Boulard allait dans tous les diocèses français et étrangers, répétant aux prêtres ahuris, étonnés de l'entendre, si le curé d'Ars revenait aujourd'hui, avec les méthodes qu'il avait, il ne réussirait pas. On était tellement abasourdi à cette époque par tous ces changements. Tout le monde avait reçu un coup sur la tête, même ceux qui se prétendaient enchantés, qu'on ne pensait guère à l'avenir. On n'avait pas le temps de s'en préoccuper. Ceux qui se désolaient du changement le jugeaient si désastreux qu'il ne pouvait pas en imaginer de nouveau ni de pire. On croyait communément avoir vu le fond de la désolation. Quand l'abbé Jean-François Six, un des grands responsables de la nouvelle pastorale, l'historien, entre guillemets, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, annonçait tranquillement, c'était en 1976, je cite, « En l'an 2000, il restera très peu de chrétiens en France et généralement en Occident, 10% au mieux, 1%, 1% au pire. » Fin de citation. On s'indignait, on jugeait de tels propos blasphématoires. Les chrétiens fidèles à la foi de leur baptême étaient encore nombreux, mais ils avaient, je dirais, nous avions des réactions enfantines. Les uns disaient, la situation ne peut pas devenir plus mauvaise. Par conséquent, elle va forcément s'améliorer. Et les autres, j'en étais, écrivaient aux évêques, ou même allaient les voir, et leur présentaient des suppliques, des remontrances. Ils disaient, Monseigneur, mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer. Les évêques recevaient ces gens-là. J'ai moi-même donc été l'un de ces visiteurs naïfs. Je puis en parler. Les gens se rassuraient comme ils pouvaient. Je me souviens de m'être rassuré moi-même. Dans mon article de 1975, j'écrivais ceci, je me suis recopié avec étonnement ces derniers jours. La France, demandais-je, est-elle encore aujourd'hui un pays catholique ? Non, si l'on considère ses lois civiles et la petite minorité de catholiques pratiquants. Oui, si l'on se souvient que la plupart des Français sont encore aujourd'hui débaptisés. Effectivement, à cette époque, 76% des Français étaient encore baptisés. Et qu'ils viennent encore à l'église pour y célébrer, comme on dit aujourd'hui, les temps forts de leur vie familiale. Et là, je pensais certainement à ces catholiques appelés par les sociologues catholiques festifs ou saisonniers. Et je pensais aussi sans doute à cette foule de gens simples, éloignés de toute pratique, bien que baptisés, mais chez lesquels subsistaient encore des restes de croyances. En 1974, un religieux, le père Panet, avait publié un livre qui avait fait grand bruit, qui a été très répandu, le catholicisme populaire. Et ce père Panet rassemblait dans ce livre les résultats d'enquêtes qu'il avait menées dans les milieux ouvriers. C'était un livre consolateur, ce livre du père Panet, ce catholicisme populaire. En effet, beaucoup des réponses que le père Panet avait obtenues, il avait interviewé des ouvriers, des gens très simples, baptisés, mais qui avaient abandonné toute pratique. Et les réponses de ces gens-là dénotaient une foi véritable, une espérance même souvent dans la vie éternelle. Et j'avais lu ce livre, et je citais dans mon article de 1975 plusieurs cas observés par le père Panet, et en particulier ce cas observé par lui dans une banlieue ouvrière de la Champagne, d'une femme d'ouvrier âgée de 37 ans, mère de deux enfants, baptisée, non pratiquante, depuis très longtemps, et qui avait confié au père Panet, je cite, « Vous savez, mon père, il y a quelqu'un qui me rassure souvent et qui me fait des reproches doucement, c'est peut-être le bon Dieu. » Fin de citation. Alors le père Panet citait ce témoignage en disant « Vous voyez, il y a encore de la foi même chez ces gens-là. » Et moi, tout attendri, tout ému, j'écrivais « Pauvre vestige de la foi d'antan, mais combien émouvant !» Vous voyez qu'en période de pénurie, on se contente de peu. Et maintenant, si vous voulez bien, un petit saut de 10 ans. Nous arrivons en 1985. Et où en étions-nous? Où en étions-nous à cette date? Alors pour la pratique, je passerai assez vite, n'est-ce pas, parce que cette question de la pratique devient moins importante. Il était malaisé à ce moment-là de donner une réponse précise en 1985, il y a 10 ans. Parce que l'épiscopat avait cessé de procéder à des enquêtes nationales. Comme elles donnaient de très mauvais résultats, on n'en faisait plus, n'est-ce pas? On avait interrompu les enquêtes nationales. Toutefois, il y avait encore quelques évêques courageux ou plus curieux que les autres qui ordonnaient des sondages ou des enquêtes. Et nous disposions quand même de quelques enquêtes diocésaines. Et les résultats de ces enquêtes ne laissaient aucun doute. La baisse de la pratique continuait. Alors ici, pratique veut dire assistance régulière à la messe du dimanche. Je pense que déjà à cette époque, d'après les quelques sondages et quelques enquêtes diocésaines, je pense que déjà à cette époque, le pourcentage des pratiquants français était descendu au-dessous de 10%. Moyenne pour l'ensemble du pays. Les églises se vidaient lentement, mais sûrement, et nous semblait-il d'une manière inexorable. Le reflux ne touchait pas que la France, mais il la touchait plus fortement que le reste du monde. J'ai pu me procurer des statistiques sur divers pays, sur le Québec en particulier. Ces statistiques me semblent montrer une certaine stabilisation de la pratique dans les années qui ont suivi la grande chute, c'est-à-dire dans les années 1971-1985. Les ordinations en France, elles ne remontaient pas non plus. Dans tous les diocèses, par conséquent, on fermait des paroisses. Bien sûr, ces paroisses figuraient toujours dans la liste officielle, la liste diocésaine des paroisses, un peu, si vous voulez, comme les diocèses in partibus infidelium dans la liste des diocèses, mais leurs églises ne s'ouvraient plus que de loin en loin, pour les enterrements, pour les mariages, un dimanche, tous les 2 mois, tous les 3 mois, quand le prêtre chargé du secteur, comme on disait, trouvait le moyen de venir y célébrer la messe. Paroisse morte, non peut-être, mais à moitié morte, et ne vivant que par les cimetières. Église fermée, église quasiment abandonnée, sauf le jour où le prêtre venait dire la messe. Alors ce jour-là, on enlevait les toiles d'araignée, on nettoyait la sacristie, on brossait un peu le tapis rouge, le prêtre disait sa messe devant une assistance misérable et frileuse, et puis on refermait l'église qui redevenait une sorte de tombeau. Mais par contre, le cimetière, lui, à côté de l'église ou un peu plus loin, lui restait toujours ouvert, toujours visité, toujours fleuri. Il en est d'ailleurs encore ainsi aujourd'hui. Étonnant spectacle que ces paroisses qui ne vivent que par leur cimetière, ce fait avait ce phénomène avait déjà commencé. Paroisse à demi-morte, ou bien, si vous préférez, paroisse en sommeil, paroisse dormante, il me semble quelquefois, lorsque je parcours les campagnes françaises, il me semble que seul pourra les réveiller la trompette du jugement dernier. Je pensais à ce poème de Charles Péguy. Charles Péguy parle de la mère du genre humain. Ce poème est consacré à Ève, la mère du genre humain. Et Péguy, le grand poète catholique, imagine qu'à la fin du monde, Ève viendra conduire les humains, elle viendra les chercher dans les cimetières pour aller jusqu'à la vallée, pour les conduire dans la grande migration vers la vallée de Josaphat. Femme, vous m'entendez, quand les âmes des morts s'en reviendront chercher dans les vieilles paroisses le peu qui restera de leur malheureux corps. Aurez-vous retrouvé dans vos forces décrues le peu qu'il s'en fallait pour mener cette troupe et pour mener ce deuil et pour mener ce groupe dans le recordement des routes disparues? Cette évocation, voyez-vous, des vieilles paroisses m'a fait penser à Péguy, des paroisses dormantes. Seulement, voyez-vous, tout cela quand même, en 1985, ces paroisses qui fermaient, ces cimetières qui n'étaient plus que la manifestation, qui était devenu le centre de la paroisse. Tout cela n'était pas finalement vraiment nouveau, parce que déjà nous en avions les signes 10 ans plus tôt. La grande nouveauté dans les années 70, c'était, je crois, dans les années 80, c'était l'affaiblissement des croyances chez ceux qui se reconnaissaient comme catholiques. En 85, nous assistons à un affaiblissement des croyances. C'était le mot des sociologues. Ils parlaient de croyances. Nous parlions, quant à nous, d'un affaiblissement de la foi. On constatait, dans ces années-là, il y a 10 ans, cet affaiblissement autour de soi, dans son entourage immédiat, chez ses amis, chez les amis de ses enfants, dans les établissements scolaires, partout, on en voyait des signes. Et diverses enquêtes scientifiques, ou à prétention scientifique, en apportaient la confirmation. En 1983 à 1984, deux psychologues, M. Boutinet et M. Cousin, avaient questionné au sujet de, ils disaient, leurs aspirations religieuses, les élèves de l'enseignement catholique d'un département de l'ouest de la France. Des élèves qui se déclaraient, qui se reconnaissaient pour catholiques, qui étaient des garçons et qui avaient entre 14 et 19 ans. Or, voici le résultat, 53% de ceux qui se déclaraient catholiques ne croyaient en Dieu qu'assez ou moyennement, et 28% n'y croyaient qu'un peu ou pas du tout. Pas du tout. Et ils se disaient catholiques. Interrogés sur la vie éternelle, un quart d'entre eux seulement y croyaient. Réponse inquiétante, mais réponse normale, puisqu'il s'agissait d'une génération née bien après le Concile et donc instruite d'une manière, disons, plutôt évasive. Mais à peu près à la même date, le sociologue Yves Lambert interviewait les habitants adultes, cette fois, d'un petit bourg de la Bretagne, le bourg de Limerzel, dans le département du Morbihan, et constatait chez ces Bretons le même rétrécissement de la foi. Quant à l'existence d'un au-delà, écrivait ce sociologue après son enquête, une fraction des habitants de Limerzel, difficile à estimer, n'y croit pas. Confrontés à ce même phénomène de réduction de la croyance, un curé du diocèse de Sens, c'est le centre de la France, l'abbé Noirot, que j'avais invité à nous parler de la déchristianisation dans sa région. Je l'avais invité au colloque que j'avais organisé en 1985. L'abbé Noirot apportait une confirmation. Il constatait ce qu'il appelait une évacuation des convictions religieuses motivées. Et il citait ses propos d'un missionnaire. Il avait invité un missionnaire à prêcher une mission dans sa paroisse, une paroisse de campagne. Alors ce missionnaire était venu avec beaucoup de zèle, et il avait commencé, avant de prêcher la mission, comme on le faisait toujours lors des missions, par visiter tous les habitants du village. Ça se passait en 1984, oui. Et il s'était rendu chez tout le monde et il avait dit, voilà, je vais prêcher la mission, venez à l'église. Bon. Et il avait fait parler un peu les paysans. Et il avait en particulier visité un vieux paysan, infirme et malade. Et il lui avait demandé ce qu'il pensait de son avenir après sa mort. Et ce vieux paysan lui avait dit, oh ben après ma mort, c'est comme mon cheval. On creuse un trou et puis c'est tout. Et puis c'est fini. Alors, le missionnaire était sorti effaré de cette entrevue. Il avait raconté ça au curé Noirot. Bien souvent, n'est-ce pas, en 1985, on se trouvait dans un ramollissement de la foi, Et s'il y avait encore des croyances, c'était plutôt des opinions que des croyances, ou tout au plus des croyances molles. Alors, placé devant ce nouvel état de choses, cette transformation, vous voyez, en 1975, on ne pouvait pas prévoir cela. Maintenant, on se trouvait devant quelque chose de nouveau. Que faisaient et que disaient les autorités? Les autorités, c'est-à-dire les évêques, les bureaux des évêques, les théologiens, il me semble qu'ils réagissaient de trois manières différentes. Les uns appréciaient la situation en disant « ce n'est pas si terrible ». D'autres disaient « c'est normal ». Et puis il y en avait d'autres qui disaient « mais c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose ». Alors dans le premier groupe, le groupe de ceux qui disaient « ce n'est pas si terrible » figurait en bonne place le cardinal Jean-Marie Lustiger, nommé en 1981 archevêque de Paris. Ce prélat ne manquait pas d'optimisme. Il nous rassurait. Il nous démontrait que l'on avait connu bien pire dans le passé de la France et que, par exemple, la France avait souffert sous le roi Henri IV à la fin du XVIe siècle, vous imaginez un peu, une déchristianisation bien pire que celle d'aujourd'hui. Faut-il dire, écrivait cette éminence en 1985, faut-il dire que la France de 1980 est plus déchristianisée que la France de 1610? Mais je n'en suis pas sûr du tout. J'ai tendance à croire qu'en dépit des luttes de trois siècles, la France des années 80 est probablement plus imprégnée de christianisme et de façon plus égale que la France des années 1590 avant les grandes campagnes d'évangélisation. Fin de citation. Alors je ne fais aucun commentaire. Ou plutôt je fais un seul commentaire. De tels jugements ne peuvent être formulés sans une très grande ignorance. Quand il écrivait cela, Monseigneur Lustiger était soit extrêmement ignorant du passé, soit extrêmement ignorant du présent. Un deuxième groupe, ceux qui disent, donc en 1985, c'est normal. Alors là, dans ce deuxième groupe, c'est le groupe à quai, se trouvent la plupart des évêques de France et de leurs collaborateurs immédiats. Alors pour illustrer cette réaction, qui est donc celle de la majorité des autorités, je ne veux citer qu'un seul texte, celui du directeur de la semaine religieuse du diocèse d'Angers, un texte de 1982. En 1982, l'évêque d'Angers, Mgr Orchamp, évêque donc sociologue, moderne, curieux, ordonne un sondage sur la pratique religieuse dans son diocèse. Les résultats sont catastrophiques. Enfin, on s'aperçoit que dans les dernières années, la pratique est dégringolée. Alors, Mgr Orchamp, qui n'est pas très courageux, charge le directeur de la semaine religieuse de présenter au lecteur, dans son bulletin, dans la semaine religieuse, les résultats de ce sondage. Alors, le pauvre chanoine, le chanoine Jeannin, chargé de se présenter ses résultats, se trouve donc devant une tâche bien ingrate. Mais pour lui, elle n'est pas ingrate. Pour lui, elle n'est pas ingrate. Les gens ne vont plus à la messe. Mais ne vont-ils pas dans le sens de l'histoire? Et d'ailleurs, les raisons sont la mutation des comportements modernes. Les raisons fondamentales du bouleversement des comportements religieux, écrit le bon chanoine Jeannin, notamment chez les jeunes, sont à rechercher dans la profonde évolution sociale et culturelle des dernières années. Moment de rupture manifeste dans les sociétés occidentales, fondée sur les traditionnels apports gréco-latins et judéo-chrétiens, et ainsi de suite, avec des explications aussi savantes et profondes. Pourquoi s'inquiéter? Un fait qui s'explique aussi savamment est en quelque sorte un fait qui va de soi, et s'il va de soi, pourquoi le déplorer? Alors, on peut comparer cette réaction à celle de Saint Vincent de Paul qui, trois siècles plus tôt, Saint Vincent de Paul se lamentait. Il disait, trois siècles plus tôt, les âmes se perdent, disait-il à la reine Anne d'Autriche, les âmes se perdent, faute de prêtres. Mais vous voyez que le chanoine Jeannin n'entre pas du tout dans cette perspective, pas plus que le cardinal Lustiger, il manifestait beaucoup d'inquiétude. Et d'ailleurs, une troisième interprétation, alors ça c'est la réaction de ceux qui disent, c'est plutôt une bonne chose, une troisième interprétation prenait alors une place grandissante et influençait même ceux qui ne la partageaient pas, l'interprétation du nouveau christianisme. Un christianisme est mort et un autre, un nouveau christianisme est en train de naître. Cette interprétation était de nature à prévenir tout regret, à effacer toute nostalgie. Car pour ces tenants, les faits constatés ne signifiait pas du tout une régression, mais une amélioration. Un ouvrage publié en 1986 et intitulé « Vers un nouveau christianisme », Vers un nouveau christianisme exposait cette thèse. Et alors les auteurs nous expliquaient qu'on assistait à une réinterprétation religieuse adaptée à une nouvelle vision du monde, à l'autonomie de la vie sociopolitique, au primat du bonheur terrestre. Le primat du bonheur terrestre. Il suffisait d'y penser. Les auteurs de cet ouvrage parlaient aussi du salut nouveau. Il ne s'agit plus maintenant du salut éternel, il s'agit du salut intramondain. On fait son salut, ça se passe ici, n'est-ce pas ? Ailleurs, au-delà de la mort, ce n'est pas la question. Le salut éternel n'existe plus. Évidemment, devant ces interprétations différentes, les catholiques fidèles, de plus en plus conscients, je dis de plus en plus conscients, parce que, à mon avis, en 1975, ils n'en étaient pas vraiment conscients, de plus en plus conscients de la dérive, ne se satisfaisaient pas de ces explications. À cette époque, un certain nombre de ces catholiques fidèles, ils n'y étaient pas tous, mais beaucoup s'y trouvaient, formaient déjà un îlot de résistance à l'intérieur de cette église en déroute. Monseigneur Lefebvre, leur pasteur, leur conseiller, ordonnait chaque année déjà plusieurs dizaines de prêtres. Les grands pèlerinages de Chartres avaient commencé en 1981. Et chaque année, à Pentecôte, plusieurs milliers de jeunes catholiques, dits, appelés par les médias traditionnalistes ou intégristes, faisaient à pied, en chantant et en priant, les quelques 80 kilomètres qui séparaient Paris de Chartres. Ils partaient très tôt, le matin, le samedi de Pentecôte, le matin très tôt, vers 5 heures ou 6 heures du matin, et on célébrait la messe devant les portes fermées de Notre-Dame de Paris, puisque l'archevêque de Paris, bien sûr, ne faisait pas ouvrir la cathédrale pour ces gens-là. Et ils arrivaient à Chartres, et ils trouvaient également les portes fermées de la cathédrale de Chartres, et on célébrait la messe devant, sur le parvis de la cathédrale de Chartres. C'était une manifestation impressionnante. Ces manifestations témoignaient de la foi vivante, bien sûr, mais aussi du refus, du double refus de la déchristianisation et du nouveau christianisme. Mais il y avait d'autres protestations qui venaient d'autres bords, de prêtres et de religieux adeptes de la réforme conciliaire, mais inquiets de l'abandon dans lequel étaient laissés les pauvres gens, les petites gens, les gens simples. Et certains de ces protestataires faisaient observer que les évêques ne visitaient plus leur paroisse à la visite pastorale prescrite par le Concile de Trente. Mais vous savez, dans ces années-là, on n'en a pas abusé, les évêques n'en ont pas abusé. Peut-être ne voulaient-ils pas aller trop se rendre compte sur place de la situation ou entendre les plaintes de leurs curés. Donc ils ne visitaient plus leur paroisse et les prêtres n'allaient plus voir les familles et les malades. Que ces prêtres parlaient toujours des pauvres, mais ne s'en occupaient guère. Donc il y avait ce courant protestataire, et d'autres protestataires accusaient le clergé d'avoir fabriqué une religion intellectuelle, une religion abstraite, une religion sans vie, et d'avoir banni les pratiques chères au cœur des simples fidèles. Et ces gens-là, ces protestataires, plaidaient pour ce qu'ils appelaient la religion populaire. Ils disaient, mais il faut respecter la religion populaire. Le problème n'était pas très bien posé, parce que ce qu'ils appelaient la religion populaire, finalement, n'était que, dans la plupart de ses aspects, le catholicisme tout court. Mais la tactique était habile, car les nouveaux curés, les nouveaux clercs, les nouveaux évêques n'aimaient pas du tout se voir accusés de mépriser le peuple. Et on leur disait, votre religion c'est très bien, mais c'est une religion pour intellectuels, vous méprisez le peuple. Alors là, les évêques n'aimaient pas cela. Mais ces derniers ne désarmaient pas pour autant. Les évêques ne désarmaient pas, les théologiens ne désarmaient pas. Deux exemples. L'historicité des évangiles y était niée, la valeur rédemptrice de la souffrance écartée. Au point que mon collègue, l'historien universitaire Pierre-Yves-Henri Nouella, dans un livre qui a fait du bruit en France, publié en 1984, et intitulé « Nos enfants seront-ils chrétiens ?», pouvait écrire « On peut se demander si le lieu catéchétique n'est pas le lieu de destruction de l'Église catholique en vue de la construction d'une autre église plus conforme au goût des responsables. » Poser ainsi la question, c'était y répondre. Je me rappelle avoir partagé l'opinion de Nouella. Nouella posait la question « Nos enfants seront-ils chrétiens ?» un prêtre qui s'appelait Louis Toublant publiait la même année un livre intitulé « Le peuple de nos paroisses restera-t-il chrétien ?» Et moi, au colloque de 1985, je posais la question « Le christianisme est-il en voie d'extinction ?» On avait donc fait de grands progrès depuis 1975 parce qu'on discernait mieux la nature du mal, la gravité du fléau, l'inquiétude avait grandi à la hauteur de la menace. Et alors nous arrivons aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous arrivons en 1995. Alors première constatation, la pratique ne remonte pas. Les ordinations non plus. La pratique n'est presque plus jamais recensée aujourd'hui en France. Je ne sais pas si on la recense chez vous, je n'ai pas l'impression. Elle n'est presque plus jamais recensée, mais il semble qu'elle continue à baisser. Elle est recensée, elle a été recensée dans deux ou trois diocèses seulement, et en 1990, je lisais dans le bulletin du diocèse de Paris ce texte, « Les sondages qui basent la pratique régulière sur l'assistance à la messe au moins une fois par mois ne dépassent pas 8% sur l'ensemble du pays. » Donc nous sommes à 8%, à mon avis, au-dessous. Mais c'est l'estimation de la semaine religieuse de Paris. Et ce texte continuait, une enquête approfondie demandée par l'évêque de La Rochelle pour sa ville épiscopale, enquête qui avait été demandée en 1992, établit que de 11% en 1960, la pratique est tombée en 1992 à 4%. Pour les ordinations, alors à mon avis, n'est-ce pas, je pense que nous sommes en moyenne nationale à 4 ou 5% de pratiques religieuses. Si on entend par pratique l'assistance à la messe du dimanche au moins une fois par mois. Pour les ordinations, les deux derniers chiffres dont j'ai eu connaissance sont ceux de 1991, 130 nouveaux prêtres, et 1992, 126. Comme l'écrivait le journal Le Figaro le 28 février 1992, la crise des vocations persiste. Je précise que dans ces statistiques ne figurent pas les apports de la pratique et des ordinations traditionnelles. Donc, la baisse continue aujourd'hui, et de ce côté-là, rien de nouveau. Le fait nouveau aujourd'hui, c'est l'apparition d'une nouvelle catégorie de pratiquants. Les pratiquants non-croyants, ou très peu croyants. Ce sont des gens qui se reconnaissent catholiques, qui ne sont pas forcément des pratiquants irréguliers. Ne croyez pas ça. Ils viennent à la messe tous les dimanches, pour beaucoup d'entre eux, qui exercent même assez souvent des fonctions dans les communautés paroissiales. Ils sont membres d'équipes liturgiques, comme on dit, ou bien ils font la catéchèse, et qui ne croient plus aux dogmes de la religion catholique, ou tout au moins à la plupart des dogmes de la religion catholique. Le journal Le Monde, interrogé en 1994 sur leurs croyances, entre guillemets, 1014 personnes se disant catholiques, et l'existence de Dieu n'était certaine que pour 29% d'entre eux, et elle était seulement probable pour 32% d'entre eux. Pour ce genre de catholiques, on se demande si le monde surnaturel existe ou s'il les intéresse en quoi que ce soit. Récemment, une dame de la grande bourgeoisie du nord de la France, la région de Monseigneur Lefebvre, disait, une famille très catholique, une dame qui fait la catéchèse, c'est-à-dire qui enseigne le catéchisme, dans sa paroisse, confiait à son voisin dans un dîner. Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe après la mort, et d'ailleurs, je ne désire pas voir Dieu. Pour ces gens-là, la pratique semble être devenue une finalité en elle-même, de même que la participation à la communauté. Un sociologue a dit que maintenant, la plupart de ces paroisses étaient devenues des communautés émotionnelles. Le rituel en vigueur favorise cette catégorie de pratiquants incroyants. Puisque vous le savez, il n'y a plus de signes de respect, il n'y a presque plus de silence, il n'y a presque plus de recueillement, et la présence de l'invisible n'est nulle part sensible. Un romancier catholique anglais, Robert Hugh Benson, disait « À la messe, ce qui compte, ce n'est pas ce qui se dit, mais c'est ce qui se fait ». Mais on pourrait, je crois, retourner aujourd'hui la proposition, l'inverser. Dans la nouvelle messe, c'est différent. Au point que les incroyants se trouvent à l'aise, les incroyants non pratiquants, les incroyants se trouvent à l'aise, n'étant pas du tout dérangés dans leur incroyance par ces sortes de cérémonies nouvelles. Tous les curés de paroisse vous le diront aujourd'hui en France. Les incroyants viennent volontiers dans nos églises. Ils viennent aux communions, à toutes les cérémonies des familles pratiquantes avec lesquelles ils sont liés d'amitié ou de parenté. On les voit même communier. Ils vont communier. Et certains disent, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas entrer dans votre communauté paroissiale, dans votre communauté émotionnelle? Ainsi, aux pratiquants non-croyants s'ajoutent les incroyants pratiquants. Et c'est normal, parce que dans le vide, tout le monde se rejoint. Un témoignage remarquable de cette conjonction sans précédent, de cette conjonction historique, nous a été donné le 23 janvier 1995 à Évreux, en Normandie, lorsque l'évêque révoqué Jacques Gaillot a concélébré une messe d'adieu avec quatre autres évêques. Une partie notable de l'assistance était composée de membres du Parti communiste. Un autre développement d'importance nouveau s'est produit depuis 10 ans. Et il me paraît très intéressant, la théologie moderne, je dirais moderniste, s'est déclarée nettement. Ce qu'elle insinuait jusqu'à une époque récente, ce qu'elle suggérait seulement, elle le déclare aujourd'hui avec netteté, à savoir que l'homme est devenu à l'égard de Dieu comme une sorte de partenaire. Et que Dieu doit l'accepter et en tenir compte. L'homme a évolué, il est devenu plus autonome, plus puissant. Maintenant, il domine le monde, par conséquent, le rapport des forces a changé. Comme l'écrit Jacques Rollet, l'abbé Jacques Rollet, chargé de formation permanente en théologie dans un diocèse de Normandie. Notre rapport à Dieu, écrit cet éminent théologien, ne peut pas ne pas être affecté par cette position de l'homme. Ce que vous voulez maintenant, Dieu doit s'adapter. L'homme est devenu plus puissant, il domine le monde, alors Dieu doit en tenir compte. Et en écrivant cela, l'abbé Rollet, chargé de la formation permanente des prêtres en théologie dans le diocèse du Havre en Normandie, en écrivant cela, l'abbé Jacques Rollet ne prétend pas présenter son point de vue personnel, mais exprimer la position commune de tous les théologiens contemporains, en particulier des théologiens français, Metz, Geffrey, Bouillard et d'autres. Alors, de tels textes, voyez-vous, me paraissent très importants, très intéressants. Nous y voyons clair. Nous voyons maintenant nettement dévoilée la pensée qui est entrée dans l'Église et qui s'efforce de la changer de l'intérieur. Alors, le troisième et dernier développement nouveau que je veux signaler est celui-ci, et c'est pourquoi ma conférence va se terminer. On parle beaucoup moins aujourd'hui de la déchristianisation. On en parle beaucoup moins. Le débat sur ce thème a cessé. Avec mes collègues universitaires, bon, la question ne se pose plus. Autrefois, il me disait, mais vous parlez de déchristianisation, mais vous ne savez pas ce que c'est, vous ne connaissez pas la réalité des phénomènes. Et puis moi, je leur répondais, mais écoutez quand même, les gens se détachent du christianisme. Non, maintenant, ces débats ont cessé. Et il est assez facile de comprendre pourquoi. La déchristianisation est un fait accompli en France. Donc, c'est une affaire réglée, si je puis dire. Le christianisme n'entre plus dans le paysage moral et intellectuel de la France. Et qui visitera pendant 15 jours, 3 semaines notre pays s'en rendra très vite compte. D'abord, déchristianisation, comment dirais-je, la déchristianisation des monuments. Je connais une ville du sud-ouest de la France où l'évêché est devenu la préfecture, où le Carmel est devenu une banque, où la maison des Dames de Saint-Maur, pensionnat connu depuis plus d'un siècle, est devenu un immeuble de rapport. Ces bâtiments sont toujours là, très bien restaurés, on les a grattés, on les a polis, ils sont plus propres que jamais. Oui, seulement, la religion en est sortie. Et au bout de quelques jours, on s'aperçoit de cela. Je me suis aperçu depuis 5 ou 6 ans qu'il devenait très difficile, pratiquement impossible, de faire un cours dans des amphithéâtres sur des questions d'histoire religieuse. Non pas que les étudiants soient de mauvaise volonté, mais pour eux, il s'agit de quelque chose de totalement étranger à leur univers. Il faut donc beaucoup d'expérience, beaucoup de métiers, et utiliser quelquefois des procédés dont j'ai honte pour les attirer, pour les intéresser à ces questions religieuses. Donc c'est une première raison. La déchristianisation est un fait accompli. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on est entré dans une nouvelle phase. Je pense, celle de la déshumanisation, dont témoigne principalement le massacre des légalisés des enfants à naître, 200 000 chaque année depuis 20 ans dans notre pays, et d'une certaine manière la généralisation du concubinage encouragée par la loi et les dispositions fiscales. Alors à propos de l'avortement, certains parlent, et de cette déshumanisation en général, certains parlent de paganisme. Mais c'est une erreur historique. Les Grecs et les Romains n'ont pas toujours pénalisé, sinon pas toujours pénalisé l'avortement, ne l'ont jamais légalisé. Quant au concubinage, à la place du mariage, ce dévoiement leur était inconnu. D'autres parlent de crise de civilisation. Oui, bien sûr, si une civilisation entre en crise quand elle commence à ignorer les lois de la nature humaine. Car le mariage, je ne vous l'apprendrai pas, n'est pas une institution chrétienne, c'est une institution naturelle. Le mariage est naturel, il est inscrit dans la nature humaine. Renier le mariage, c'est renier la nature humaine. C'est une des choses les plus stupéfiantes auxquelles on peut assister aujourd'hui, à mon sens. C'est cette indifférence du mariage. Ce désir de ne pas se marier, qui est si général, ce recul devant le mariage, qui est si général dans notre jeunesse aujourd'hui en France, avec l'avortement légalisé et la généralisation du concubinage, nous assistons, à mon avis, à un reniement de la nature humaine, à une déshumanisation. On pourrait parler aussi de la fin des nations, qui sont liées au christianisme, l'existence des nations est liée à l'existence du christianisme. On pourrait aussi parler de la fin de la culture des terres. Depuis la première fois, depuis la création du monde, on ne cultive plus les terres. Et cela par décision administrative. Nos terres en France sont en jachère, on nous interdit de les cultiver. Pourquoi la déshumanisation a-t-elle suivi la déchristianisation ? Bien, tout simplement parce que c'était le même programme, parce que le programme qui prévoyait la déchristianisation prévoyait aussi la déshumanisation. Ce programme, quel est-il ? C'est celui de l'idéologie des Lumières et de la Révolution française, devenue aujourd'hui l'idéologie dominante et mondialement acceptée. Vous savez, on a trop souvent mal discerné la signification et la portée de l'idéologie des Lumières et de la Révolution française. Cette idéologie n'est pas seulement dirigée contre le Christ, elle est dirigée contre l'homme, contre la nature humaine. Car la conception de l'homme qu'elle véhicule est très réductrice. Selon les philosophes des Lumières, vous savez, Voltaire, Diderot et les autres, dont la pensée est d'ailleurs reprise par les théoriciens de la Révolution, par des hommes comme Robespierre, l'homme n'est qu'une portion de matière, je cite, une machine mise en mouvement par la sensibilité physique. C'est Voltaire qui dit cela. L'homme est un être totalement privé de liberté. Voltaire qualifie la liberté de chimère absurde. Et Diderot écrit, le libre arbitre est une chimère. L'homme n'est finalement qu'un être de besoin, dit un autre philosophe. Et c'est le besoin qui met en jeu toutes ses facultés. La sensibilité de l'homme se réduit à un égoïsme bien compris, selon ces philosophes. Ô homme, écrit un philosophe, suis les lois de la nature, écoute ton besoin, c'est ton seul maître, ton seul guide, la nature a parlé, cet objet est à toi, jouis. La charité n'existe pas. Cette charité chimérique, écrivait Diderot, n'existe pas. Quant à la pensée, bien peu d'hommes en sont capables. Le petit peuple ne raisonnera jamais, dit Voltaire. On ne raisonne que dans l'oisiveté. Le peuple est entre l'homme et la bête. C'est Voltaire qui écrit cela. Quand je pense en France, il y a des écoles qui s'appellent École Voltaire. La multitude des bêtes brutes appelées hommes, comparée avec le petit nombre de ceux qui pensent, est au moins dans la proportion de 100 à 1 chez beaucoup de nations, Voltaire. Dictionnaire philosophique, article homme. L'homme est-il fait pour penser ? Demande un autre philosophe. J'avais eu la sottise de le croire, mais depuis longtemps j'ai reconnu mon erreur et je réponds hardiment, non. Mais alors me direz-vous ces fameux droits de l'homme, ces droits qui découlent des Lumières, dont on nous dit toujours, et c'est vrai, qu'ils viennent des Lumières. Comment expliquer que ces droits soient libération et exaltation de l'homme et que la philosophie qui les inspire soit réduction de l'homme ? C'est effectivement curieux. Et l'on peut se demander si ces droits ne sont pas de faux semblants, si ce ne sont pas des mots vides de sens. Il ne s'agit pas dans cette idéologie, je le répète aujourd'hui, mondialement dominante, de la dignité de l'homme, mais d'avilissement de l'homme. Et il ne faut donc pas s'étonner d'assister sous le couvert hypocrite des droits de l'homme à une entreprise de déshumanisation après celle de déchristianisation. Eh bien, ces phénomènes que je viens de décrire, bien rapidement, bien sommairement, vous les reconnaissez sans doute dans votre pays. On les retrouve dans tous les pays du monde. enfin tous les pays qui ont été chrétiens. Mais je me demande s'ils ne sévissent pas en France avec plus de virulence que dans les autres pays, parce que la France, avec la philosophie des Lumières et la Révolution, en a produit les germes les plus actifs. Aussi, nous, Français, sommes-nous peut-être mieux placés pour les identifier, pour les diagnostiquer, pour en indiquer les causes et à l'occasion les remèdes. Je l'ai souvent observé, qui n'est pas français a souvent bien du mal, mais vous êtes français d'une certaine manière, a souvent bien du mal à comprendre la philosophie réelle de la Révolution française et de la démocratie issue de cette révolution et telle qu'elle est conçue dans le monde moderne. Je devrais terminer sur une note d'espoir, ce serait convenable, et je devrais vous annoncer la rechristianisation prochaine, mais je ne suis qu'un historien, et l'avenir donc ne m'appartient pas. Mais, étant historien, je crois savoir un peu comment à certaines époques s'est faite la rechristianisation. Et quand je lis la vie et les écrits des apôtres du XVIIe siècle, et en particulier des apôtres de la Nouvelle-France, je suis frappé de leur désir très vif et comme obsédant de sauver les âmes, en l'occurrence pour la Nouvelle-France, les âmes des Indiens. Le mot qui revient toujours sous leurs plumes est celui de compassion. Ils évoquent très souvent le sang de Jésus-Christ et disent vouloir le recueillir pour aller l'appliquer aux âmes des sauvages. Ce thème du sang recueilli et ensuite appliqué est l'un des thèmes principaux des relations du Père le Jeune, cet héroïque jésuite qui a suivi les tribus indiennes dans les bois pendant les hivers. « Oh, dit-il par exemple en 1636, quelle gloire en face des anges d'avoir recueilli le sang du Fils de Dieu pour l'appliquer à ces pauvres infidèles. » Je pense que nous devons considérer avec attention la manière dont s'expriment ces christianisateurs. Et si nous la considérons, il est difficile d'imaginer une rechristianisation sans compassion pour les âmes et sans désir de recueillir le sang de Jésus-Christ et de l'appliquer au peuple sans Dieu. Il me semble que toutes les prédications, toutes les stratégies pastorales, toutes les célébrations n'ont que peu de chances d'aboutir sans la compassion. Et enfin, l'examen rétrospectif de ces 20 dernières années de déchristianisation nous donne, vous donne, je l'espère, deux leçons. D'abord, une leçon de prévoyance. Nous manquons très souvent de sagesse devant l'événement. Ou bien nous nous bouchons les yeux, ou bien nous crions à la fin du monde pour demain, alors qu'il conviendrait beaucoup mieux de s'efforcer de prévoir, grâce à une analyse attentive de la situation, quelques-unes des conséquences possibles de cet état de choses. Ensuite, une leçon de discernement. Il faut savoir que les idéologies sont beaucoup plus complexes qu'on ne le croit communément, que leur puissance d'illusion est immense et que par conséquent, il faut beaucoup d'applications, beaucoup d'études pour les démasquer et pour en discerner tous les éléments. La plus grande menace aujourd'hui contre le christianisme, à mon sens, c'est l'idéologie issue de la Révolution. C'est cette idéologie qui représente la plus grande menace. Pourquoi est-elle la plus grande menace? Parce qu'aucune idéologie n'a jamais mieux menti sur elle-même, sauf peut-être le communisme, mais cette exception du communisme n'en est pas une, puisque le communisme n'est qu'un succès d'année de l'idéologie révolutionnaire. Elle réussit en effet, cette idéologie, ce tour de force, de se faire passer pour la plus pure expression du christianisme, alors qu'elle porte en elle et apporte avec elle la divinisation de la cité totalitaire et l'anéantissement de l'homme. Une véritable rechristianisation ne paraît guère possible tant que ce mensonge ne sera pas démasqué. Or, il ne peut l'être que par toute l'application et par toute la mobilisation des intelligences. Je vous remercie.